Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes aux Utopiales et nous sommes avec Jean-Claude Mézières. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez une exposition qui vous est consacrée pour cette année 2019 des Utopiales. Comment ça s'est passé le choix pour les œuvres qui sont exposées? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire ou vous avez fait confiance à des gens?
C'est les gens qui m'ont fait confiance, parce que c'est moi qui détiens les originaux, c'est pas mon éditeur, c'est pas caché à la mairie du 5e arrondissement ou du 13e arrondissement. Donc c'est moi qui ai choisi des pièces, et comme j'ai 3 expositions sur le feu en ce moment, au mois de novembre 2019, j'ai 3 expos, donc j'ai heureusement travaillé bien pendant 50 ans, et que comme je savais aussi qu'Evelyne venait dans ce festival, parce que quand on a des séances de dédicaces, les lecteurs aiment bien avoir une petite dédicace, et en plus ils ont la couleur, ils refont la queue pendant une heure, et ils ont la dédicace en couleur, et ils sont ravis. J'ai choisi du matériel qui était disponible, et j'en ai encore beaucoup.
Le fait justement sur l'exposition d'avoir des planches en noir et blanc et après de voir les pages terminées, c'est quelque chose que vous estimez comme indispensable en fait pour montrer aux gens justement le travail, façon de parler du coup de chacun, du dessinateur et après du coloriste?
Oui, ben justement parce que comme les planches sont faites pour paraître en album en couleur, les gens n'ont aucune idée comment ça se passe. Les systèmes qu'on a montrés avec les tirettes qui montrent le film noir et la couleur sans trait noir du tout, dans la manière dont Evelyne le fait, et la vision définitive, tout le monde est content et les gens se disent « Ah, c'est comme ça !» Et ça, c'était l'ancien temps de l'imprimerie manuelle. Maintenant, tout se fait en digital. Moi, je ne travaille pas en digital. Evelyne ne travaille pas en digital. Donc, on fait encore ce qu'on veut. Dieu merci. Et l'éditeur nous laisse faire, heureusement.
Vous pensez quoi, du coup, de l'exposition?
C'est toujours très agréable de voir le travail qu'on a fait accroché au mur. Et puis
les gens qui regardent et qui disent...
Les gens qui regardent, qui cherchent à savoir, alors justement avec l'histoire des couleurs, là, ou de pousser le film noir et de voir que derrière, il n'y a plus de trait noir, alors ils comprennent, on ne voit rien du tout, on ne comprend rien du tout, et puis quand on repose le film noir dessus, c'est le miracle.
Et puis évidemment, la question aussi, c'est les gens qui me disent, mais alors vous indiquez les endroits pour la coloriste, ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est jaune, c'est vert, je dis, c'est pas du coloriage, ce qu'elle fait, c'est de la mise en couleur, et elle fait... On en discute avant, mais je la laisse complètement improviser. Complètement. Non, c'est pas vrai. Je la surveille. Mais elle travaille chez elle quand elle m'apporte. Parce qu'en général, quand même, les planches passent toujours par chez moi avant d'aller chez l'éditeur. Et donc, gna gna gna, là, je voudrais que tu changes ça un petit peu. Ben, je l'emmerde, mais pas beaucoup, quand c'est important. Et où, quand on n'a pas compris, ou je n'ai pas indiqué ce que j'aurais voulu. Mais la plupart du temps, et c'est pourquoi elle, c'est une très bonne coloriste, Evelyne Tralney, c'est qu'elle est, elle lit l'image. Chose qui n'est pas toujours le cas beaucoup de mes confrères, où la couleur est trop envahissante, ou casse le dessin. Et c'est ça aussi ce que j'ai besoin, c'est que plus le dessin est compliqué, avec des choses fantastiques, etc., il y a besoin d'avoir une espèce de grande unité dans la couleur qui permette de lire le trait, de comprendre ce que je voulais faire. Et c'est là où le travail de la coloriste est très important. Et on peut bousiller une belle planche noire et blanc avec des couleurs dégueulasses. Alors ça, on en a tous vu.
Ça oui, malheureusement, on en a vu, voire même des rééditions où des fois le dessinateur reprend lui-même les couleurs. C'est arrivé.
Et c'est encore pire. Ouais. Alors là,
on vous connaît du coup assez curieusement, j'ai envie de dire, grâce au cinéma, avec bien sûr le cinquième élément et puis plus récemment Valérian, alors que votre travail, comme vous le disiez, ça fait 50 ans que vous êtes sur le dessin. Le fait d'avoir accès finalement à ces deux médias-là, vous les trouvez complémentaires? Ou est-ce qu'il y a vraiment un travail différent? Parce que un film, c'est d'abord un storyboard, donc d'abord un dessin.
Oui, mais moi, je ne travaille pas, je n'ai pas travaillé, surtout pour le Valérian, oui. Je n'ai pas travaillé. Besson m'a acheté les droits d'adapter l'histoire, et après, ça devient son film. Et nous avons été, Christin et moi, invités à relire le scénario, en faisant des remarques. Et puis Besson a fait et dire qu'il a changé des choses, enfin, c'est jamais blanc contre noir. Hein. C'est disons, attention, doucement sur ce sujet-là, à mon avis, c'est un petit peu trop ton idée et pas la nôtre, mais c'est son film, c'est son interprétation, et c'est comme ça que ça marche, puisque en plus que du métier de metteur en scène, qui est un boulot de fou furieux, il a 200 personnes sur le plateau de tous les jours derrière lui, qui savent exactement quoi faire à tel moment, et on ne peut pas s'improviser réalisateur soi-même. Dans ma jeunesse, j'avais des grandes envies de cinéma, de peut-être passer à la réalisation. J'ai vite compris que ma famille ne venait pas d'un milieu où on avait des cousins qui étaient cinéastes, et il y avait donc c'était des milieux très fermés. Et puis, c'est un autre métier. Et si vous dessinez, le bonheur de dessiner, c'est d'être là, devant une feuille de papier, et une demi-heure plus tard, éventuellement, il y aura quelque chose d'intéressant à regarder, ou pas.
Par rapport à ma lecture, du coup, assez récente, finalement, de Valérian, il y a une petite créature, moi, qui me passionne, je pense comme tout le monde, c'est le grognon. C'est un plaisir de pouvoir le mettre un peu dans toutes les formes, il a plein d'attitudes, parce que finalement, il n'est pas tout le temps grognon, et du coup, après, est-ce que c'est un plaisir aussi de pouvoir le coloriser, puisqu'il change de couleur aussi assez régulièrement? C'est un peu...
C'est un peu...
On peut l'utiliser à toutes les sauces.
C'est-à-dire que, scénaristiquement, avec Christin, on avait débattu d'abord le truc de dire, tiens, ben, il me dit, ça serait intéressant qu'on ait quelque chose pour des problèmes d'argent. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée de prendre un extraterrestre qui est capable d'avaler des pièces de monnaie, des diamants, des cartes bancaires, et les restituer par l'autre côté, comme ça, très aisément, était une idée un peu saugrenue, mais qui date d'il y a quand même 45 ans de ça, et qui n'a choqué personne, et qui, au contraire, a fait rire, et beaucoup de gens, en dédicace, me demandent un grognon. Je dis, vous avez des fins de mois difficiles. Alors après, pour la crise, les crises de... en colère ou du grognon, évidemment, je dis à Evelyne, qui voit bien le dessin et l'allure qu'il a, de lui dire, bon, ben, tu, là, tu vois, tu le changes, mais tu changes comme tu le sens. C'est-à-dire que je ne lui dis pas, le bout des petites cornes doivent être rouges et le bout de la queue bleue, etc. Non, elle fait... Et c'est ça qui... Elle me surprend toujours, parce que c'est toujours quelque chose mieux que ce que je pensais. Et je trouve que comme coloriste, elle est meilleure que moi. Je fais de la couleur, je fais les couvertures en couleur, mais pour faire 50, 8, 62 pages des fois d'album, c'est un boulot, c'est 6 mois de travail de plus. Si on veut que la bande dessinée reste un artisanat un peu productif, je mets déjà 2 ans pour faire un album. Si en plus je rajoute 6 mois pour faire la couleur, je préfère de beaucoup m'adresser à ma frangine qui a toujours fait des couleurs magnifiques et qui les traduit très très bien ce qu'il faut.
C'est vrai.
Il faut prendre mes compliments.
Ah bah oui, ça
parce que vous n'êtes pas comme ça tout le temps. Là, c'est parce que vous êtes là. Que...
Non, mais voilà, j'ai rien à dire, il a tout dit là.
Il y a des personnages comme ça que les gens vous réclament à chaque fois en dehors du grognon ou des personnages.
L'Orline, ça, oui. Incontestablement, oui. L'Orline est beaucoup plus demandée que Valérian parce que elle est jolie. Parce que dans un dessin extrêmement rudimentaire que je fais pour la dédicace, c'est plus facile de faire l'Orline avec une grande paire de cheveux qui l'accompagne bien que de faire un Valérian piquer ce qu'il fait. Enfin, bon. Et puis ça me permet de jouer avec le lecteur, de jouer avec la personne qui demande le dessin, c'est en fonction. Et puis de trouver une petite idée, parce que ce qui compte, c'est pas la qualité d'un beau dessin. Moi, je passe pas une demi-heure à faire une dédicace. C'est, vu la queue qu'il y a en général, il faut que ça aille vite. Mais il faut que ça soit efficace. Et si c'est en plus un petit gag, ou en rapport avec le nom de la personne. Oui, trouver un truc, trouver des idées.
Ou alors avec les chingouses aussi.
Oui.
Les chingouses s'adaptent très souvent ou très facilement, soit avec les prénoms, soit avec la situation.
J'ai même fait à un moment une carte de naissance de petites Laureline, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ouais. Et j'avais dessiné une Laureline qui court, se précipitant vers un chariot où il y a les trois chingouzes qui regardent dans le chariot. Et alors, c'est un des chingouzes qui se retourne et qui dit « Laureline, fais pas de bruit, tu vas faire peur à Laureline.
» C'est un personnage du coup extrêmement marquant. Alors après, il y a eu toute l'histoire de pourquoi appeler les aventures de Valérian alors qu'ils sont deux, etc. Mais on va pas...
Au début, mais bon. On a fait une histoire de garçon pour un journal de petits garçons. Pilote était un journal hebdomadaire de 60 pages. Et dedans, il y avait deux pages de toutes les séries d'Astérix, de Blueberry, de Tanguy, etc. Donc, à lire la semaine. Et ce n'est que en commençant comme ça. D'abord, j'ai vu ça, c'est l'énorme chance que j'ai eue par rapport à la bande dessinée en contemporain maintenant, où les journaux n'existent plus et les gens achètent des livres. Donc, on demande à un débutant de faire 60 pages ou 45 pages, bien, très bien, et pour conquérir un nouveau public, il y a 5000 albums qui sortent par an. Ce qui est une monstruosité, et donc, ça pose même un malaise très fort. Les livres deviennent plus chers, les tirages deviennent de plus en plus petits, et les revenus pour le mec qui passe un an ou deux ans sur son histoire... gagner, s'il en vend 500 exemplaires, hein, il va pas... il a fait le tour peut-être de sa famille et de ses cousins, mais c'est dramatique. Et ça, c'est une chose... C'est incroyable de dire que c'est la vogue des albums est née du succès des personnages. Mais les gens disant, au lieu de dire manger une tranche de saucisson de très sec et l'autre moins sec, etc., ben, je préfère celui-là, et donc j'attends que il soit prêt, et je l'achèterai, celui-là. Et donc, on n'achète plus les journaux, parce qu'il y avait une variété. Aussi, le fait que la production a changé, le succès a beaucoup changé dans le monde de la bande dessinée, ce qui est formidable pour ceux qui ont du succès, et ce qui est dramatique pour ceux qui dont le succès ne vient pas tout de suite, comme ça, et... Moi, j'ai eu la chance de démarrer pendant deux ans, trois ans, à deux pages par semaine. Ce qui déjà a été un énorme travail de régulier, d'apprendre. Quand on se met avec un scénariste, moi, c'était Pierre Christin est un ami d'enfance. Ça faisait déjà 25 ans qu'on se connaissait. Et on a commencé à jouer, à faire des petites histoires. Puis, à un moment, j'ai dit, allez, c'est sérieux, on attaque quelque chose. Et ça a très bien marché. Bon, ça marche pas pour tout le monde comme ça.
Vous auriez éventuellement un conseil pour quelqu'un qui voudrait justement se lancer dans l'aventure ?
Les conseils, c'est dire vas-y, travaille, parce que ça vient pas tout seul. Donc d'abord, commencer. Donc, se lancer dans l'aventure, faut déjà avoir un niveau de dessin évident, mais aussi en dehors du dessin, de savoir raconter en narration pictoresque. Des choses, pourquoi tu as mis tes personnages de dos ici, puis là on les voit de face, c'est bien, ah c'est bien parce qu'on voit le dos d'abord, puis la face après. Par contre, là, le chandelier qui vient cacher tout, ça va pas. Ah, mais moi je trouve que c'était joli. Bah oui, mais c'est joli, mais ton chandelier, on n'en a rien à foutre dans l'histoire. Bon, des tas de choses qui sont des réflexes qu'on développe, bien sûr, au fur et à mesure, mais le dessin est une école absolue pour le dessinateur de bande dessinée. Mais ce n'est pas forcément les meilleurs dessinateurs qui font les meilleures bandes dessinées. Et ça qui est bizarre, c'est que là, il y a tout un mélange d'équilibre, d'esquisser quelque chose. On a vu la grandeur des cases qui paraissent dans un journal qui font 5 cm de haut. Si vous mettez à dessiner les 2500 personnes de la manifestation, ça va pas aller, quoi. Donc, il faut symboliser ça, et ça ressemble à une foule, et pas à des pavés, et les uns à côté des autres.
Vous travaillez sur quoi, actuellement ?
Je me repose. J'ai quand même plus de 80 ans. J'ai pas mal travaillé. Je prépare des expositions. Là, donc, j'ai 4 expositions en cours de route. J'ai 2 livres en préparation, mais ce sont des compilations d'illustrations, des choses que j'ai fait à droite et à gauche, des travaux que j'ai faits pour le cinéma, qui sont déjà sortis, d'ailleurs, beaucoup sont déjà sortis. Mais il y a aussi que la machine humaine se détériore avec l'âge, incontestablement. Des très grands dessinateurs de 90 ans, moi, je veux bien que ça reste des très grands dessinateurs, je suis content pour eux, mais en général, ça ne s'arrange pas des tonnes. Hein.
Le thème de cette année, aux Utopiales, c'est coder et décoder. Ça vous inspire quoi ?
Rien du tout. Rien du tout. Je ne sais pas, il faudrait qu'on en parle plus pour savoir qu'est-ce que ça m'inspire. Et les codes, la science-fiction est pleine de codes. Les histoires de science-fiction sont forcément pleines de codes. Et qu'est-ce que c'est qu'un code ? Je ne sais même pas ce qu'on appelle code. Enfin, moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un dessinateur teigneux. Et donc, non, pour l'instant, j'aurais rien à commenter pour le code.
Tous les ans, pour terminer nos interviews, on a une question différente. Cette année, on propose d'emprunter un chemin, d'emprunter une voie. C'est-à-dire que vous pouvez partir au choix, deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, emprunter le chemin de briques jaunes, monter la Stairway to Heaven, descendre la Highway to Hell, ou partir vers l'infini au-delà. Vous prenez quoi comme chemin ?
Ben, je prends le chemin en général que les autres n'ont pas pris. Parce qu'on a commencé à créer quand même nos histoires. Il n'y avait personne qui faisait ça. Donc, je ne prendrai aucun de ces chemins-là.
Et du coup, le vôtre, ce serait lequel ?
Ben, ça ne serait pas cela.
D'accord.
Enfin, disons que je n'ai rien contre tous les chemins qui sont là. Mais il y en a d'autres. Il y a plein d'autres chemins. Et tout ce qu'on a fait, Christa et moi, c'était désinventer ces chemins.
Il y en a un qui vous tente ?
Non, pas du tout. Moi, j'essaierai de suivre le dessinateur.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude, parce que vraiment, non, ça ne m'inspire rien du tout.
Quelque chose que vous souhaiteriez ajouter pour conclure ?
Mais je suis très content de voir la foule qu'il y a. Alors, ça, c'est quand même une évolution et un chemin. Encore une fois, qu'il y a 20 ans, parce que moi, j'ai fait l'affiche du deuxième ou du troisième Utopiale. Il y avait du monde, mais enfin, ce n'était pas la foule comme ça. C'est de voir justement l'incroyable population qu'il y a là aujourd'hui. Et nous sommes vendredi, nous ne sommes pas samedi ou dimanche. Et donc, de dire que, par exemple, la science-fiction, qui était quelque chose qu'on disait, les Français ne savent pas faire. Les Français, sauf Jules Verne et Sierra de Bergerac et d'autres, ils faisaient la science-fiction. De dire que ce n'est pas un genre français, c'est un truc américain, la preuve c'est que ce n'est pas vrai. Et que depuis maintenant, c'est évidemment un phénomène mondial. Et ce qui est intéressant dans la science-fiction, c'est de parler de futurs possibles. Alors, vous avez les futurs extraterrestres, parce qu'on repousse la balle et très loin. Ma foi, sur les extraterrestres, j'ai pas grand-chose à dire. Sur la Terre, je veux dire qu'on s'honore, Christa et moi, qu'un des tout premiers Valérians était écologique et était vraiment protection de la nature et choses comme ça, alors que le mot écologie était à peine connu à l'époque. Ça remonte à 1972. Et donc, il y avait des choses qui étaient intéressantes et j'espère qu'on trouvera peut-être encore quelques idées. On va voir. On va essayer.
Merci beaucoup.
Merci.